Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Par les temps qui courent, rencontre des artistes tous les soirs pendant une heure. Et ce soir, on discute avec l'écrivain et traducteur Frédéric Boyer.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Romain Debecq de Lièvre avec Frédéric Boyer.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Personne ne doit mettre la faucille sous les blés mûrs avant de s'être couronné les tempes de feuilles de chêne et d'effectuer pour Cérès une danse maladroite et dire des poèmes. C'est une voix qui conseille, qui ordonne, qui défend, qui décrit et qui chante. C'est celle du poète latin Virgile qui compose aux alentours de 37 avant notre ère ses Géorgiques, un poème découpé en quatre parties qui traite de la matière agricole. Quelques 2050 années plus tard, on lit, grâce à votre nouvelle traduction Frédéric Boyer, un nouveau poème de la terre comme matière à travailler, de la terre comme notre souci, de la terre comme origine du travail, comme lieu où reposent les morts, et peut-être comme notre seul lieu. Bonsoir Frédéric Boyer.
Bonsoir.
Le souci de la terre, c'est le titre de votre nouvelle traduction des Géorgiques de Virgile. Elle est publiée aux éditions Gallimard. Bienvenue et merci d'être là.
Merci.
Quoi faire pour le bonheur des champs? Sous quelle étoile la terre retourner mes scènes? Et aux ormeaux attacher les vignes comme il faut? Quel souci des vaches? Quel entretien pour obtenir des troupeaux? Et pour les abeilles rares, quelle expérience? C'est ici mon chant qui commence. Vous, très lumineuse lumière du monde, qui dans le ciel dirigez l'année en cours, libère et Cérès la nourricière si, grâce à vous, la terre a troqué le gland de Caonie pour le gros épi barbu, et mélanger dans les coupes l'eau de l'Achéloïs aux raisins trouvés, et vous aussi présence lumineuse des campagnes. Faune, posez ici vos pieds ensemble, faune et jeune dryade, vos œuvres, je chante.
Frédéric Boyer, on entend une lecture du tout début du livre 1 du Souci de la Terre, donc de votre nouvelle traduction des Géorgiques de Virgile, qui s'ouvre par un programme, le programme de composition du poème.
Oui, le poète annonce qu'il va chanter le travail dû à la terre en quatre chants, qui essaye de couvrir à peu près l'étendue de ses travaux. Alors c'est une tradition, c'est-à-dire on rentre par la tradition, une tradition très ancienne déjà puisqu'elle remonte à Hésiode, aux grands poètes grecs qui se sont tous attachés eux aussi à donner dans des poèmes très didactiques tous les soins que l'on devait entreprendre pour vivre dans une nature domestiquée, avoir des cultures, des bêtes et vivre en harmonie, d'une certaine façon, avec ce monde-là, qui est un monde dont on doit prendre soin. Et les Romains vont poursuivre cette tradition. Alors, Virgile, lui, va inventer quelque chose à partir de cette tradition, beaucoup plus personnelle, et aussi parce qu'il est dans un moment de l'histoire, de son histoire, qui est un moment particulier. qui fait suite. Virgile a connu César, comme le dit très bien Dante quand dans sa Divine Comédie, dans le premier chant l'Enfer, il le convoque. Il lui dit voilà, tu es né avec César et tu as connu la mort de César et toi tu mourras avec Auguste, c'est-à-dire Octave qui devient Auguste après la fin des guerres civiles qui ont conduit à la chute de la République et au début du premier empire romain et du premier empereur romain qui est Auguste. Voilà. Et lui se trouve dans une position assez délicate, finalement. Voilà, parce que ce chant, c'est Géorgique, c'est une commande. D'ailleurs, il s'adresse à son protecteur,
Mécène,
qui est Mécène, qui va devenir Mécène. Donc c'est un peu comme si aujourd'hui, d'ailleurs, ben, moi je le regrette, qu'aujourd'hui on n'ait pas ce système que, par exemple, le président de la République est une sorte de poète qu'il puisse convoquer pour que ce poète chante pour nous des poèmes qui seraient, je sais pas, sur le grand débat ou sur autre chose. Et donc je rigole, mais c'est parce que la situation de la poésie à cette époque est tout à fait différente de la nôtre. Voilà, elle a une place éminente par rapport à la langue d'abord et au fait de faire entendre la langue latine dans des lieux publics et également une place éminente politique. Voilà, l'exercice et la composition de la poésie et le chant poétique avaient une place politique au sens noble et important à cette époque. Donc chanter la terre, c'était important aussi, c'était un projet politique. Donc il commence effectivement, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des séguetes, c'est-à-dire des moissons heureuses, comme il dit, la étesse. Hein, et qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre soin des vaches, des labours. Et puis il finira sur les abeilles, ce qui est très touchant pour nous aujourd'hui, hein, puisque c'est en quelque sorte comme si c'était le soin ultime, c'est-à-dire que si jamais les abeilles disparaissent, quelque chose se détraque dans l'ordre de notre petit univers.
Dans la lecture que vient de lire Lou de votre traduction, on entend deux mots qui sont lumineuse et numineuse. Comme si d'un côté il y avait la lumière et de l'autre côté les forces divines.
Ouais, tout à fait.
C'est ce parallèle-là que vous avez voulu créer par cette traduction.
Oui, enfin c'est un parallèle qui est parce que vous êtes un bon lecteur. C'est un parallèle qui est dans le poème, effectivement. Hein. Et qu'effectivement, alors c'est assez parce qu'il est il est très rusé, Virgile. Hein. Et même son, enfin, on l'a peut-être peu dit, mais dans le poème, le poète lui-même prend une position très ironique, je trouve, moi, voilà, par rapport justement à ce que je raconte de ce devoir de chanter, de cette commande. Donc il faut chanter les dieux, par exemple. Il faut raconter, il faut en passer par la mythologie, puisque non pas pour s'amuser, mais parce que ça faisait partie effectivement du discours et du savoir de l'époque. On devait manier les références mythologiques pour expliquer le monde. Alors il le fait, donc il chante les dieux, mais en même temps, tout le poème est fait de digressions. Alors, après, c'est une interprétation personnelle, mais qui m'a d'une certaine façon un peu bouleversé, qui a précipité ce travail de traduction finalement. C'est qu'il va donner une vision du monde qui n'est pas du tout celle que donne la Vulgate de l'époque, la Vulgate des savoirs de l'époque, qu'ils soient mythologiques ou même scientifiques. Et puis il est dans cette position politique très étrange, où il est le protégé du nouvel empereur. Même son poème va en subir quelques cicatrices, puisque on sait qu'il devait finir son poème des Géorgiques en faisant l'éloge d'un préfet romain en Égypte. Ce brave homme tombe en disgrâce avec Auguste, et donc précipitamment, un an avant la fin du poème, il doit trouver une autre fin. Et cette fin, d'ailleurs, c'est très étrange, puisque à part cette fin, il invente, il remet au goût du jour l'histoire d'Orphée Eurydice, qui devient la conclusion de ce poème sur l'agriculture, ce qui est assez étrange, mais on pourra peut-être l'expliquer. Ouais. Et qui donne une touche à la fois, qui en fait un poème très prenant et très original, finalement. Voilà. Et à la fin, on peut découvrir qu'au-delà de la res rustica, comme on disait, c'est-à-dire de cette matière agricole, il tente de composer autre chose.
Le programme qu'il fixe dès le tout début de ce livre 1, il va le suivre dans les grandes lignes, mais oui, il ne va pas arrêter de digresser, comme vous le disiez tout à l'heure, Frédéric Boyer. Comment vous avez circulé dans ces digressions, dans la traduction? Comment vous y êtes attaqué concrètement? De manière linéaire, vous avez suivi le chant?
Ouais, on est un peu obligé de suivre ça. Ben, sachant que finalement, on commence de façon linéaire, j'ai pas essayé de, et qu'après c'est un éternel recommencement, c'est-à-dire il faut, à mesure que l'on avance dans la traduction, on reprend aussi, évidemment, ce qu'on a fait auparavant, et on essaye de recomposer quelque chose. Le plus difficile, enfin pas le plus difficile, mais un des vrais chantiers dans une traduction comme celle-là, c'est de trouver une forme, voilà, contemporaine. Donc, et d'échapper à ce que j'appelle une langue académique. Voilà,
ce serait quoi, une langue académique?
Bah, c'est en gros toutes les traductions
qui existent déjà.
Non. Mais c'est globalement, la traduction des textes anciens a un gros problème. Et depuis quelques années, on s'en défait. Et j'en suis très heureux. Il y a plein de nouvelles traductions de textes anciens. C'est un phénomène très intéressant. Hein, plein de gens, d'ailleurs. Pas forcément des écrivains attitrés ou des traducteurs attitrés. Là, je viens de voir une nouvelle traduction du compendium sur Tristan et Iseut, qui date du 12e siècle, fait par une, apparemment, c'est même pas une universitaire, c'est quelqu'un qui s'est passionné pour l'ancien français et qui vise effectivement à essayer de refaire entendre ces textes dans à la fois dans des formes et une langue contemporaine et des préoccupations contemporaines. Et donc là, il faut trouver une forme quand on traduit de la poésie, quand on en écrit aussi, mais quand on en traduit aussi. Et plutôt que d'essayer de reproduire par mimétisme, en quelque sorte, la forme que l'on traduit, c'est-à-dire là, l'hexamètre dactylique qui est le maître classique, à la fois de l'épopée, mais aussi de cette poésie dite très didactique, alors qu'on a tous, on a essayé de le reproduire par décasyllabes, ensuite par alexandrin. Aujourd'hui, il y a même des linguistes très érudits qui essayent de retrouver dans le français contemporain, une sorte de rythme de l'hexamètre dactylique en français, c'est quasiment impossible. D'abord parce que la poésie en français s'est écrite sur un rythme syllabique, donc briser le rythme syllabique, faudrait. Bon, mais pourquoi pas, hein, enfin, mais là, bon, moi, ça, j'avoue humblement que ça me dépasse, donc j'ai cherché une forme, et j'ai eu beaucoup de mal à la trouver, je ne sais pas d'ailleurs si je l'ai vraiment trouvée, mais j'ai essayé de traduire selon le rythme que moi j'entendais en lisant le poème. Et donc je reviens, excusez-moi de cette digression, mais ça explique cette forme s'explique effectivement par la matière même de ce poème, qui est un poème fait de détails. Voilà. C'est-à-dire qu'il se lance dans un programme un peu académique et tout de suite il se fixe sur des détails, sur une succession de détails qui sont parfois très beaux, très touchant, quand il décrit tout d'un coup la fourmi qui porte ses œufs toujours par le même petit chemin, enfin, ou des choses comme ça, ou les corneilles qui s'ennuient sur le sable en attendant la tempête, enfin. Et c'est des petits détails qui vont composer une sorte de tableau un peu fragmenté, éclaté de sa contemplation du monde. Et donc, on essaie à chaque fois, de faire entendre ces détails comme des incises dans la forme poétique.
Vous diriez que vous avez suivi Virgile dans toutes ces digressions, que c'est vraiment cette chose-là qu'il faut faire quand on le traduit, c'est-à-dire le suivre dans ses digressions et de...
Ah bah oui.
Son chemin.
C'est pas moi de dire si je l'ai vraiment suivi, mais en tout cas, lui, il m'a suivi. Enfin, je veux dire, c'est pas lui qui m'a suivi, mais c'est... Il m'a un peu poursuivi, disons, voilà. Mais, parce qu'au bout d'un moment, quand on traduit des textes comme ça, on devient hanté un peu à la fois par ce qu'on lit, par la langue, par les objets que l'on découvre à la lecture, et on est littéralement poursuivi par un texte comme ça, et on essaye de le mettre en forme, de le composer effectivement, et donc et puis de le composer avec un rythme et une langue qui soit audible pour nos contemporains. Ce que tous les traducteurs ont toujours fait d'ailleurs. Souvent on essaie de. Non, mais je veux dire, souvent on conteste le fait qu'une traduction rende un texte ancien dans une langue très très contemporaine. Mais on oublie que tous les grands traducteurs se sont attelés à cette tâche-là. À commencer, je sais pas, par ceux que je connais bien, Saint Jérôme traduisant la Bible. Il le fait avec ce souci-là, il l'exprime d'ailleurs dans ses lettres, il se fait d'ailleurs, il se fait d'ailleurs contredire par Saint-Augustin, mais l'idée, si vous lisez aussi la traduction, puisqu'on parle de, je parle d'Augustin, des Confessions, la première grande traduction en français des Confessions au XVIIe siècle, par Arnaud d'Andy, qui était un grammairien de Port-Royal, vous lisez cette traduction, si vous connaissez un peu le latin, c'est hallucinant. C'est là où il y a deux mots en latin, il y a deux phrases, on croit entendre Racine. Et voilà. Et donc on traduit les Confessions dans la langue de l'époque, qui était cette langue dans laquelle écrivaient Racine, Corneille et Pascal. Voilà. Donc on ne peut pas échapper à la façon dont on a été formé nous-mêmes par la
langage
et par la façon dont l'époque s'empare du langage. Voilà.
Pas les appels pas à voix haute,
ouais.
On les aborde progressif.
Ouais.
Donc là, tu peux descendre, tu prends Pepita.
Zorro.
Bon.
Le petit rituel d'aller chercher déjà l'animal dans son pré, établir un premier contact, et puis commencer à l'attacher au licol, et là déjà, voilà, il sent qu'on va travailler ensemble, on établit un contact par le biais de cette attache qui est douce. Et à partir de là, on va le préparer, donc le brosser, nettoyer bien ses pieds, pour qu'il n'y ait pas de petits cailloux qui puissent causer un abcès, parce que c'est vrai que c'est des animaux qui ont des pieds très sensibles, et en tout cas, il faut qu'ils aient un pied en très bon état pour pouvoir travailler.
Je répète, on se met à gauche de l'animal, pour harnacher.
Quand on prépare les ânes là, de jour, dès qu'ils sont en phase de préparation, ils sont déjà dans leur tête, ils ont déjà compris qu'ils allaient travailler et il y a déjà un contact qui est établi, il y a un changement de comportement par rapport au moment où ils sont dans le pré. Et voilà, c'est des petits moments qui sont très importants, qui vont certainement conditionner après le reste de la journée de travail. Si déjà on établit un bon contact au départ, on met un peu l'animal dans sa poche, à part avec Pepita qui est peut-être un petit peu vieille et caractérielle maintenant. Mais...
Pepita, okay. Oh bah. Ah ouais, d'accord. Allez. Allez. Tout le monde se doute bien qu'un tracteur qui consomme du gasoil, c'est pas la même chose qu'un cheval qui consomme du foin et qui produit du fumier alors que l'autre produit du CO2 et des métaux lourds.
Toi, ceux que tu formeras au travail et à la pratique des champs, encourage-les quand ils sont encore des veaux. Et poursuit le dressage quand ils ont le cœur jeune, qu'ils sont dociles et que leur âge est souple. D'abord avec des licols d'osier lâches et fins à nouer sous leur cou. Puis, quand leur encolure libre a apprivoisé la servitude, les attacher par paire à d'authentiques colliers et forcer les jeunes bœufs à unir ainsi leurs pas. Et vite, leur faire conduire régulièrement à vide des roues sur la terre, qui ne laissent à leur passage qu'une trace dans la poussière. Frédéric Boyer, je viens de lire un extrait du... C'est le livre 3 du Souci de la Terre, donc des Géorgiques de Virgile, dans votre nouvelle traduction, qui traite de l'élevage. Et juste avant, on entendait une archive, un documentaire de France Culture en 2013, sur une association qui milite pour le retour à la traction animale. Et on entend dans cette archive et dans ce documentaire un certain nombre de conseils pratiques sur comment gérer l'élevage. Et j'ai fait immédiatement le parallèle, enfin, avec le texte et avec notamment cette écriture qui appartient à la poésie didactique, qui est une écriture chez Virgile du conseil extrêmement pratico-pratique. Quels sont les enjeux de traduction du conseil?
D'abord, il y a une chose simple, c'est le vocabulaire de toute cette partie, parce que c'est un vocabulaire vraiment didactique. Par exemple, il y a tout un passage dans le livre 1 sur les greffes, qui est sur les greffes et les boutures, c'est-à-dire comment. C'est un bon exemple, mais je reviendrai à l'élevage, mais je fais des digressions comme lui, moi. C'est-à-dire que où effectivement, sur plusieurs pages, il explique comment on peut greffer des arbres, bouturer des arbres pour avoir d'autres plantes. Et c'est là où on bascule après du didactique à un savoir qui pour nous est très lointain, ou même peut-être, je n'exclus pas, une sorte d'exagération volontaire du poète, où il dit que d'un pommier on peut faire pousser un poirier, que avec un être, je sais pas ce qu'on fait, on fait avec un chêne on fait autre chose, etc. Voilà. Une espèce de folie. Alors qui peut-être à l'époque il le pensait, mais sinon on retrouve dans ce poème effectivement tout un ensemble de conseils. Alors ça donne pour le traducteur quelque chose, moi qui m'a beaucoup amusé. Donc j'ai utilisé régulièrement l'infinitif, ce qui est en latin, ça marche pas comme ça, mais en français, effectivement, ça donne, effectivement, on accentue comme ça le côté de, un peu de mode d'emploi, hein, c'est.
Le tutoriel.
Voilà, de tutoriel, voilà, prendre les bœufs, leur mettre un licol, et surtout, ça donne un rythme au poème, voilà, ça c'est une parole, d'une parole trop didactique, on essaye de tirer un effet poétique, qui était intéressant. Après, ce qui est assez émouvant quand on lit ce texte, c'est d'une part, la comparaison avec le reportage qu'on a eu, c'est que c'est un savoir qui s'est transmis et même qu'on a d'une certaine façon encore aujourd'hui, quand il parle de l'élevage des chevaux, j'ai une fille qui fait du cheval, on retrouve des éléments qu'on a toujours, donc c'est une mémoire humaine qui a des milliers d'années, ou quand il parle des plantes, quand il décrit même, parce que c'est à la fois un livre effectivement extrêmement didactique, mais aussi très contemplatif. C'est sa force, hein. C'est-à-dire que il part du conseil et le conseil le force à nous faire observer ce qu'il a sous les yeux. Et par exemple, ses descriptions des tempêtes, ses descriptions des juments au temps des amours qui l'emportent après une sorte d'épopée folle. Donc c'est en ce sens que on ne reste jamais dans le didactique, mais qu'on essaye d'inventer un univers poétique propre et littéraire qui dépasse vraiment le seul stade du conseil.
Elle a disparu, la poésie didactique.
Et oui,
d'après vous.
Oui, en tout cas, oui.
On n'en écrit plus.
On n'en écrit plus, mais c'est ce que je disais tout à l'heure en rigolant avec l'idée de poètes officiels, mais c'est-à-dire on ne passe plus commande aux poètes parce que on ne croit plus que la poésie ait une quelconque fonction politique, ce qui est un tort d'ailleurs, et la fonction politique n'est pas la seule fonction didactique, bien sûr, de la poésie, mais donc effectivement, on n'a plus de poésie didactique. Parce que ça a été longtemps, jusqu'au
18e,
oui,
l'abbé de Ligne qui a traduit Virgile.
Jusqu'au 18e siècle, la poésie avait aussi cette force, cette capacité de transmettre des savoirs. D'une certaine façon, elle peut toujours l'avoir, mais il faut, voilà, on est dans un autre champ. Mais déjà, Virgile sentait que ça ne suffisait pas aux poètes, de répondre à l'injonction de la transmission d'un savoir.
Dans la réflexion qu'il donne sur la matière agricole, on peut lire le souci de la terre et les géorgiques comme une grande réflexion sur le travail. Le travail pervers, vous traduisez un adjectif latin, je ne sais pas lequel, par pervers.
Improbus.
Improbus. Et sur l'idée que le travail de la terre est le travail le plus fondamental qui existe depuis la nuit des temps, que c'est à la fois une forme de malédiction, mais en même temps un mode de vie, et la représentation du monde agricole oscille souvent entre espace du repos et espace du travail.
Oui, et le travail, c'est un des sujets du livre, effectivement. Et d'ailleurs, c'est littéralement le titre du livre, puisque c'est le travail de la terre, c'est les travaux de la terre, hein. Ça vient du grec.
Géorgique.
Voilà, Géorgikos, qui a donné Géorgikon en latin et Géorgique en français. Bon, pourquoi j'ai traduit? Parce qu'aujourd'hui, si vous allez dans la rue et que vous demandez ce que veut dire Géorgique, vous m'étonnerez que vous ayez la réponse. Mais effectivement, alors qu'à l'époque, c'était quelque chose que l'on savait. Donc effectivement, c'est le travail de la terre, sachant que le mot grec ergon a une signification plus vaste que le simple travail. C'est pour ça que j'ai traduit par souci, puisque c'est faire attention à, c'est s'occuper d'eux, bon bref. Et le travail est peut-être le vrai sujet. Enfin, il y a plusieurs sujets, mais c'est un sujet très important du livre, et c'était un sujet important à l'époque. Et d'abord, il faut comprendre pourquoi on est obligé de travailler, sachant qu'à cette époque, on avait et que c'était à la période de Virgile, c'est-à-dire à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, quelque chose de très important dans la vie romaine, c'était l'osium, c'est-à-dire ce temps où on se dégageait des corvées, qu'elles soient militaires, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient des corvées de travail, c'est-à-dire Ça ne veut pas dire qu'on ne foutait rien, ça veut simplement dire qu'on ne faisait que ce qui nous pouvait nous intéresser et nous porter à l'étude, à la contemplation et au repos. C'était voilà. Et donc ce livre est aussi un livre sur l'ostium, c'est un livre sur le travail et sur le désœuvrement. Et alors, ce que vous dites est juste, c'est-à-dire que Virgile décrit de façon assez paradoxale les travaux des champs et le monde de la paysannerie et des campagnes comme un monde à la fois idyllique où l'on peut se reposer, se détacher, et en même temps il faut travailler. Donc on est dans ce double, dans cette double astreinte, enfin. Et alors il y a ce fameux passage que vous avez cité, où effectivement qui est très important. Ou au début, il faut bien expliquer pourquoi il y a nécessité de travailler la terre. Alors, c'est simple, hein, dans la réflexion mythologique qui est la sienne et qui est un véritable savoir à l'époque, hein, c'est pas simplement. C'est que de toute façon, le monde a été créé par les dieux de telle sorte que personne n'ait besoin de travailler. On trouvait le vin en abondance, on trouvait tout ce que l'on va après devoir transformer, on le trouvait avant gratuitement en abondance. Bon, tout ça a changé parce que les dieux se sont rendus compte que c'était pas, comme il le dit dans le texte, c'est que Jupiter considérait que c'était pas très bien de laisser l'humanité désœuvrer sans rien faire et que les rois, et que les immenses royaumes des dieux s'enfoncent dans la paresse. Donc, on arrête. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut transformer le monde. Voilà. Donc, la tâche de l'humanité, c'est de transformer le monde et c'est en ce sens qu'il dit labor improbus, c'est-à-dire le travail malhonnête, hein, improbus, c'est ce qui n'est pas probe, ce qui n'est pas honnête, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas, donc c'est tout ce qui est rusé, pervers, tordu. Alors beaucoup de traducteurs, en tout cas jusqu'au milieu du XXe siècle, traduisaient parce que c'était quand même ça devait scandaliser les traducteurs que l'on puisse traduire par le travail malhonnête, par exemple, ce qui était aussi une bonne traduction. Moi, je traduis par travail pervers parce que ça dit mieux. Voilà, on traduisait par travail opiniâtre, acharné, mais voilà. Donc c'est pour vous dire aussi que à chaque époque, on a sa propre représentation idéologique aussi qui joue sur la traduction. Et cette idée de travail malhonnête, pervers, enfin en tout cas rusé, cette ruse du travail, elle court dans le poème de Virgile, effectivement. Puisque il termine de façon très ironique après avoir célébré les grands exploits guerriers
De César,
en disant lui, il est peinard dans la campagne de Naples,
sous un hêtre,
et il voilà, et il fait des vers de berger, des vers de Mirliton en fait, hein, des petites chansons de berger. Ouais.
Et c'est cette apparition du travail qui a attaché l'homme à la terre.
C'est cette apparition. Ben oui, c'est parce que l'homme est attaché à la
terre, qui a créé ce lien de dépendance
sur terre, qu'il faut effectivement. Donc il va décrire tout ça et c'est intéressant parce qu'à chaque fois il va s'attacher en même temps à montrer toute la difficulté de ce travail. Alors la beauté, la grandeur de ce travail, effectivement, il est. Mais en même temps, quand même, chacun des quatre livres se termine sur des choses très difficiles. Soit la guerre, soit l'évocation des guerres civiles, soit le chapitre 3 sur l'élevage par une peste qui ravage tous les troupeaux, la destruction des abeilles, ou des tempêtes et des orages. C'est-à-dire, on est carrément dans des histoires un peu contemporaines, hein, d'un climat qu'on ne peut pas maîtriser et qui ravage les récoltes, les forêts, etc.
Cherchez d'abord s'il vaut mieux planter la vigne sur des coteaux ou dans une plaine. Et si tu choisis les terres d'un champ gras, plante serré. Bacchus n'en sera pas plus paresseux. Si au contraire, tu choisis un sol en pente, sur des tertres et des coteaux inclinés, espace les rangs avec bienveillance. Mais une fois les ceps plantés, les rangs doivent être symétriques à la perfection et se couper en angle droit. Comme souvent dans une guerre immense, la légion a déployé ses longues cohortes. L'armée tient la plaine entière, alignée en rang droit. Toute la terre au loin n'est plus qu'une mer d'airain brillant avant la mêlée des horribles combats. Quand Mars hésite encore, errant au milieu des armes, il faut que tout soit mesuré au cordeau. Nombres égaux de chemin. Non seulement pour le seul plaisir de l'œil, mais aussi parce que la terre ne distribuera pas autrement à toutes ses forces égales, et sinon les rameaux n'auront pas assez d'espace pour se déployer. Peut-être demanderas-tu la profondeur des trous ? J'oserais confier la vigne à un sillon léger. Un arbre se plante plus profondément dans la terre. Le chêne surtout. Plus sa tête s'élève dans les airs éthérés, plus sa racine s'enfonce dans l'empire des morts.
Frédéric Boyer, on écoute une deuxième lecture par Luc Evauvillier du Souci de la Terre, votre nouvelle traduction de Virgile et des Géorgiques. C'est le milieu du livre 2, où, dans les digressions que vous décriviez tout à l'heure, on voit surgir, mais vraiment de nulle part, le thème de la guerre et des soldats, à l'occasion de l'évocation de comment planter des cèpes de vigne, en gros. Et c'est des moments qui, où la tonalité épique chez Virgile ressurgit, c'est-à-dire celui qui chante les armes et celui qui chante la guerre. Est-ce que dans le ton du texte latin, il y a vraiment des décrochages comme ça entre l'épique et le didactique?
Ah oui, en tout cas dans ce là, parce que c'est vrai, hein, c'est celui qui commencera l'Énéide par Cano arma virumque, c'est-à-dire je chanterai les armes, les armées, la guerre et les hommes qui la font, quoi. C'est un poète qui a voulu créer la langue épique dont Rome avait besoin, et c'est pour ça qu'on l'a célébré. Hein, et dans les Géorgiques, on retrouve ça. Alors ça, c'est un excellent passage, parce qu'effectivement, donc il commence de façon très didactique à dire faut planter des trucs comme ça. Et tout d'un coup surgit une métaphore. Alors c'est pas qu'elle est inattendue, c'est qu'on dit bon, il fait une métaphore en disant c'est comme les rangs d'une armée. Bon, pourquoi pas, on peut imaginer qu'à l'époque, et lui se souciant de chanter les armes. Mais ça prend une ampleur dans le texte, effectivement, et ça fait complètement sortir le poète de son propos, parce que si on continue la suite, il parle plus du tout après de comment planter la vigne. Donc c'est assez intéressant quand on utilise vraiment le texte, et il décrit de façon assez inquiétante, effectivement, ces armées structurées en rangs égaux, espacées comme la vigne doit être espacée. Cette métaphore tient pas le coup, je pense, en termes agricoles, parce que même s'imaginer la vigne comme... moi, j'aime beaucoup les paysages de vigne. Ça m'est jamais venu à l'idée que c'était des armées en rang. C'est assez... Donc, à chacun sa culture. Et surtout dans cette métaphore, il fait surgir l'image de Mars, dieu de la guerre, qui erre comme ça entre les rangs pour s'assurer que tout est prêt, comme une menace, comme vous dites. Hein. Et puis après, il part sur les arbres, sur le chêne, etc. C'est son mode d'écriture, effectivement. Et effectivement, une des caractéristiques de ce grand poème, c'est de mettre de l'épique là où il n'y en a pas. Et parfois, ça prend des proportions inquiétantes, parfois douloureuses, hein, puisque tout d'un coup, effectivement, il va évoquer des choses terribles, graves. Et lorsqu'il décrit une tempête qui s'abat sur les récoltes, c'est quelque chose de effectivement là de proprement épique. Hein, mais finalement, je dirais c'est la force de cette poésie d'utiliser toutes les ressources du chant. Toutes les ressources des différentes tonalités avec lesquelles on peut dire le monde, voilà. Et voilà, c'est que si on apprécie ce poème, on est tout de suite saisi par cette facilité avec laquelle il passe de la grandeur de quelque chose à la petitesse. Il dit je chante ce qui est petit, mais il chante le petit parfois sur un rythme et avec une ampleur effectivement digne d'une épopée.
Ce qu'on entendait à la fin du texte aussi, c'est que la terre, et sous la terre, c'est l'empire des morts. Et oui, donc la terre, c'est à la fois l'endroit où on travaille l'agriculture, mais c'est aussi l'endroit des morts. Et il y a ici un tissage qui s'opère, enfin un parallèle, qui poétiquement, j'ai trouvé, est tout à fait saisissant.
Pour moi, c'est la plus belle chose de ce livre. Alors, c'est venu percuter quelque chose chez moi de personnel. Bon, ça, c'est pas très intéressant, mais c'est quand même... Voilà, effectivement, c'est la plus belle chose du livre pour moi. C'est-à-dire qu'il écrit un livre sur les travaux agricoles, donc sur le soin que l'on doit à la terre. Alors, il est allé se renseigner chez Varron, chez Hésiode et tout ça. Il reprend des éléments, d'ailleurs, de toute cette poésie, cette grande tradition didactique. Mais finalement, dans le fond, il y a quelque chose qui le soucie, vraiment. C'est le sous-terre, voilà. C'est le sous-terre et le sans-terre. C'est lorsqu'on quitte la terre, qu'est-ce qui se passe? Or, c'est quelque chose qui traverse toute l'Antiquité, depuis les Hébreux, qui avaient ce qu'on appelle le Sheol, hein, dans la Bible, c'est-à-dire c'était le sous-terre dans lequel allaient les morts, les Égyptiens, bien sûr, les Mésopotamiens aussi, les Grecs aussi, et les Romains aussi, qui ont tout le monde gréco-romain s'est employé à travailler sur des discours, des savoirs, des images pour essayer de comprendre ce qui se passait après la mort et ce que c'était que cet espace. Et cet espace, on le situe quand même dans une non-terre, mais qui appartient et qui doit avoir un lien avec la terre. On enfouit les morts, donc tout l'imaginaire vient de là. Cet imaginaire, on l'a perdu d'une certaine façon. Mais dans l'Antiquité, c'est quelque chose de très très important. Ça structure même notre propre compréhension de l'existence et du rapport à ceux qui ont disparu. Et ce poème, en fait, est obsédé par cette question-là, et c'est pas un hasard, donc, si ça se termine, ça s'achève sur Orphée Eurydice, même si il y a eu peut-être un petit coup du destin pour le français. Et effectivement, régulièrement, il évoque la mort, il évoque cet empire des morts. Tout de suite, d'ailleurs, quand il commence, il s'adresse à César, et il lui dit, c'est toi qui vas régner sur le monde, et surtout, je t'en supplie, ne va pas régner dans l'empire des morts. Parce que on régnait sur l'empire des morts aussi, et il y a un passage célèbre de l'Odyssée où Achille se retrouve dans l'empire des morts, et Ulysse le chante en disant voilà, maintenant il est heureux, il règne sur les morts comme il a pu régner peut-être sur les vivants. Et il y a une très belle réponse d'Achille que je cite dans mon introduction, enfin là je cite de mémoire, qui lui dit non, j'aurais vraiment préféré rester tout petit vivant et ne régner sur rien qu'avoir régné sur l'empire des morts. Et c'est toutes ces questions qui vont se poser dans ce texte, et progressivement le texte fait entendre quelque chose que je trouve, je ne veux pas exagérer, mais tant pis, j'exagère, d'inouï dans cette pensée de l'Antiquité, c'est que finalement, il n'y a pas de passage entre la terre et la non-terre, on ne peut pas quitter la terre et revenir. Ce qui est la grande métaphore structurante de l'Antiquité sur la vie et la mort. Il y a plein de héros qui passent...
Les allers-retours entre la terre et les enfers.
Et Virgile, finalement, dans ce grand texte, d'une certaine façon, il clôt ce savoir-là. Il dit, c'est pas possible. Et c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est, finalement, savoir ce que c'est que rester sur la terre, prendre soin de cette terre et de ce lien précaire, fugace que l'on entretient avec elle. Et ensuite, il n'y aura pas de retour possible.
On n'a qu'une terre et on peut pas la quitter.
Voilà. C'est en gros ce que dit ce en tout cas, faut faire attention, mais j'assume entièrement. C'est-à-dire, je ne dis pas que Virgile penser ça exactement.
Oui, c'est pas une opinion.
C'est pas une opinion d'abord, mais quand on lit ce livre aujourd'hui, avec les questions qui sont les nôtres, on ne peut pas ne pas y penser, voilà. Et ça prend une force, assez troublante, hein, finalement. France Culture, Par les temps qui courent, Romain Debecq de Lièvre, avec Frédéric Boyer.
D'air en air, l'apiculteur se meurt. Il a eu son heure, il a fait son beurre. L'apiculteur. D'air en air, l'apiculteur effleure. La fin du labeur. Happy, happy culteur. Dans une autre vie, les marguerites, ces feuilles de ralenti. Personne n'est vainqueur. Les proies, les prédateurs. Savoure le nectar d'une pomme d'api. Happy, happy culteur. L'heure c'est l'heure, on n'est pas d'humeur. À verser des pleurs, fiers sont les ouvrières. Le jour en tailleur, le le soir qui tient quand la mort vous susurre des serments veloutés que rien n'est moins sûr n'aura plus d'importance ni la chaleur ni les piqûres. Happy, apiculteur. Happy, apiculteur. There on earth, l'apiculteur se meurt. Trouve l'interrupteur. Une oasis, vous allez border des panniers. Que la splendeur n'effraie plus. Happy, apiculteur. Happy, apiculteur. Happy, apiculteur.
Eh bien, maintenant, je vais exposer les dispositions qu'aux abeilles Jupiter a données. En récompense d'avoir suivi les sons mélodieux des curettes et le cuivre frappé pour, dans l'antre de dictée, nourrir le roi du ciel, les seuls à éduquer en commun leurs enfants, à partager les toits de leur ville, à passer leur vie sous de grandes lois, les seuls à connaître une patrie et des foyers sûrs, et gardant l'hiver à venir en mémoire, en été, elles s'efforcent de travailler pour mettre en commun le fruit de leur quête. Les unes veillent au vivre et, selon le pacte conclu, s'activent dans les champs. Une partie enfermée dans les maisons dépose la larme du narcisse et la gomme visqueuse des écorces comme première fondation au rayon, puis suspendent les cires adhérentes. D'autres font sortir les espoirs de la nation, ces enfants qui ont grandi. D'autres entassent des miels absolument purs et remplissent de ce nectar liquide les alvéoles. Il y en a que le sort a désigné pour garder les portes et qui, à tour de rôle, observent les eaux, les nuages du ciel ou réceptionnent la cargaison de celles qui arrivent ou, formant une colonne, chassent des crèches les frelons, ce bétail paresseux. Travaille en ébullition et un parfum de thym s'exhale du miel odorant. Comme les cyclopes, quand ils s'activent à modeler la foudre dans des masses de métal, que les uns capturent les vents dans des soufflets en peau de taureau pour les renvoyer et que les autres plongent dans une cuve du bronze chointant. L'antre gémit sous les enclumes malmenées. Ensemble, ils lèvent très violemment leurs bras en cadence et retournent le fer à l'aide d'une forte tenaille. Pas de différence, s'il est permis de comparer les petites choses aux grandes. Avec l'amour inné de posséder qui obsède les abeilles, chacune selon sa tâche.
Frédéric Boyer, on écoute un nouvel extrait du Souci de la Terre de Virgile dans votre traduction, lu par Lou Quevauvillier. C'est au livre 4 cette fois, et vous en parliez tout à l'heure, dont le thème est principalement l'apiculture. Et juste avant, on écoutait Alain Bachung, la chanson L'apiculteur. Et dès le début, il dit que c'est compliqué l'apiculture. Et que les abeilles, c'est aussi quelque chose de rare, qu'on peut perdre.
Il commence dès le début, il dit les abeilles parquis en latin, c'est-à-dire effectivement peu nombreuses, rares. Et ça va être, c'est la fin de son poème, donc c'est important. En bon rhéteur, et il finit sur ce qui a la plus grande importance, qui est aussi le plus fragile. On voit dans le passage qui a été lu que tout d'un coup il se met à comparer les abeilles aux cyclopes, avec cette idée qu'effectivement on peut comparer le petit au gros finalement. Donc c'est peut-être le livre le plus passionnant, puisque sa description de la vie des abeilles est assez étonnante. D'abord, très précise, bon, mais et parfois avec des détails évidemment très 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 curieux. Bien sûr, c'est une métaphore d'une certaine organisation sociale, puisque les abeilles ont un roi. Alors à cette époque, on ne savait pas qu'elles avaient une reine. Je ne pense pas que ce soit l'effet d'un machisme romain particulier, mais je crois que le savoir dans l'Antiquité sur les abeilles était qu'elles avaient un roi et non pas une reine. Donc, il décrit en même temps une sorte de communisme monarchique, en quelque sorte, où tout le monde est à sa tâche, tout le monde s'occupe de tout le monde.
Il y a des communs, tout le monde participe.
Voilà, tout ça, tout est partagé, et c'est un monde idéal qui est décrit, mais qui est très fragile, qui peut être détruit à tout instant. Et progressivement, il va nous entraîner effectivement dans une espèce de tragédie, puisque plus ce livre 4 avance, plus on sent que effectivement les abeilles peuvent être détruites d'un moment à l'autre, et l'essaim va mourir à la fin du livre 4, ce qui va entraîner cette histoire d'Orphée Eurydice
qui serait l'origine d'une forme de disparition des abeilles.
Tout à fait. Voilà. Et il finit quand même son livre là-dessus. Il finit son poème sur la mort des abeilles, même si il nous donne une recette assez étonnante d'ailleurs pour avoir de nouveaux essaims dans des cadavres de bœufs putréfiés, d'où sortent, c'est une très belle image d'ailleurs, d'où sortent tout d'un coup des petits points noirs et qui, en volant, deviennent des abeilles dorées. Tout ça. Mais la fin du livre, c'est la mort de l'essaim, avec cette leçon que finalement, le seul retour sur la Terre possible, ça n'est pas de quitter la Terre et de revenir, mais c'est de laisser d'autres êtres naître sur la Terre, voilà, puisque c'est de nouvelles abeilles qui naissent et qui réapparaissent, alors que Eurydice n'a pas pu revenir.
En lisant Le souci de la Terre, je me suis posé la question du sentiment que ça pouvait éveiller, et notamment de l'éventuelle nostalgie. Est-ce que Virgile n'écrit pas quelque chose, ou en tout cas peut-être qu'on le reçoit comme ça à l'époque contemporaine, comme une nostalgie de la Terre?
Si, non, je crois que c'était déjà ça à l'époque. Alors pour nous, ça prend encore des proportions un peu plus radicales, parce que, mais à l'époque, bien sûr. D'ailleurs, alors on essaye de justifier en disant ce qui est pas faux non plus, que effectivement après les guerres civiles, il fallait d'abord mettre tous ces mercenaires, tous ces soldats qui étaient désœuvrés au boulot. Donc le boulot qu'il y avait, c'était dans les champs à l'époque. Et ensuite, parce qu'il fallait un peu effectivement réparer les domaines qui avaient dû être détruits, ravagé. Mais dans le fond, ce livre dit autre chose qui à l'époque était important et qui est un thème très virgilien, qui est effectivement une sorte de nostalgie, d'abord d'un monde organisé autour de la nature et de ses travaux et de sa contemplation, et ensuite effectivement la nostalgie d'une nature rêvée, enfin d'une nature espérée qui n'est pas là finalement. Voilà, c'est aussi pour ça que ce livre est empreint d'une gravité et d'une mélancolie sur la fin du vivant, sur la précarité de ce qui vit et de ce qui s'anime sous nos yeux. Et ces descriptions, on n'en a pas parlé, mais c'est votre question, nous invite, ces descriptions de la vie agricole, de la vie des paysans qui font des... Il y a un passage très drôle et un peu stupéfiant. Il dit voilà, l'hiver, les paysans profitent de tout ce qu'ils ont accumulé, et là c'est la fête, c'est festin.
L'hiver est une période géniale. Ouais.
On fait des festins, tous les paysans s'invitent les uns après les autres pour faire des grands festins. Ou alors quand il décrit, quand il oppose la vie paysanne à la vie dans les palais citadins, et qu'il fait la alors ça c'était un topos, hein, c'était un lieu commun de l'époque. Effectivement, la vie agricole, la vie paysanne est une vie rude, modeste, mais saine et honnête. Voilà. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute la littérature européenne, jusqu'à Jean Giono ou même jusqu'à des auteurs plus précis. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va rester. Et là naît cette nostalgie, effectivement, d'une humanité saine, robuste, heureuse, qui vit en communion avec la nature.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là aussi de pour la littérature à venir? Je pensais à... Je crois que c'était Olivier Cadio qui, dans Histoire de la littérature récente, il était venu dans cette émission, il nous avait dit qu'il y avait un enjeu pour la littérature avec la disparition de la nature. C'est-à-dire qu'il va falloir sculptiner quelque chose de l'ordre de nommer les espèces qui ont disparu, ou en tout cas plus généralement, dans la description de la nature.
Si, je crois que c'est...
Est-ce qu'il n'y a pas un travail pour les écrivains, là?
Si, mais effectivement, il a finalement, c'est ce que vous dites, mais il a toujours commencé, et Virgile le fait d'une certaine façon, parce que contrairement à ce qu'on croit, même ses conseils, je m'avance un peu, mais je pense que j'ai c'est pas sans trop de risques. Je suis sûr qu'on ne lisait pas les Géorgiques quand on travaillait les champs. D'ailleurs, je pense que ça aurait donné des choses assez extraordinaires. Et que finalement, les Géorgiques étaient lus et chantés dans des lieux publics citadins, intellectuels, artistiques, politiques. Mais je pense pas que le brave paysan romain ou en Calabre de l'époque, au 1er siècle, faisait les labours en tenant les géorgiques d'une main et en les récitant. Voilà. Donc non, c'est qu'effectivement, il y a ce qui est beau et ce qui est fort, c'est qu'effectivement, là, le propos de la littérature est d'essayer de nommer soit ce qui a disparu, soit un lien qu'on a perdu, et la grande force de ce texte, c'est quand même de nommer le monde, et c'est ce qu'il fait. Vous parlez de listes, effectivement, il fait des listes, hein. Il fait des listes de toutes les espèces, il fait des listes des différents arbres, des différentes plantes, des différents types d'animaux, et il y a dans ce souci comme ça d'une nomenclature du monde, c'est quelque chose qui va effectivement que l'on retrouve comme souci pour le coup de la littérature, et aujourd'hui ça devient un souci extrêmement important, bien sûr. Alors, est-ce qu'aujourd'hui les écrivains s'en emparent? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, oui. On peut même dire qu'il y a un lien entre le mot, entre l'usage du mot et l'usage du monde, bien sûr. Et un texte comme celui de Virgile, Les Géorgiques, c'est un des exemples de d'exploration de ce que la littérature peut, en quelque sorte, sauver du monde dans les mots.
Vous insistez dans la préface sur aussi la dimension chantée, sur ce qu'on appelait les carmen à l'époque. Cette forme-là, qui était donc que Virgile était une poésie qui était davantage entendue que lue.
Ah bah oui, de toute façon, la poésie à l'époque, elle était faite pour être entendue, pour être chantée, pour être comme une sorte de performance, hein. Le poète était un performeur, hein, il était invité dans des lieux publics et il devait réciter, et cette récitation était un chant, hein. D'abord on peut pas le faire aujourd'hui, mais il faudrait être capable de lire l'hexamètre dactylique selon les accentuations très précises du vers, et on se rendrait compte à partir de là qu'il y a tout un rythme, comme le rythme le rythme d'un véritable chant, hein. Et ça c'est quelque chose que, et c'est vrai que quand on traduit, il faut avoir ça un peu à l'idée, même si c'est bizarre de chanter un manuel d'usage, un mode d'emploi pour les laboureurs. Bon, mais c'est là où le poème est intéressant et finalement curieux, même pour nous, c'est qu'il est à la fois là-dedans, comme on disait tout à l'heure, et à la fois il s'en échappe, et il essaye de travailler, de faire quelque chose d'autre que simplement son premier propos, voilà. Mais... Oui, la poésie était chantée, elle était dite, elle était entendue, comme je disais au début de l'émission, c'était son rôle politique. Hein, on retrouve ça parfois encore aujourd'hui, hein, cette nécessité de dire, de faire des lectures à haute voix, c'est quelque chose aussi qui est important, qui revient souvent.
Je me suis posé la question aussi en parcourant Le Souci de la Terre, de est-ce que Virgile fait une distinction claire entre l'homme et la nature ?
C'est une bonne question.
Je crois que ce sera la dernière.
Non, d'une certaine façon, oui, puisque quand même, on est aussi, il faut le dire, il ne faut pas idéaliser non plus cette littérature-là, enfin, au sens où cette littérature participait aussi quand même de l'exploitation, hein, de l'exploitation des sols, des ressources, aujourd'hui.
Oui, ce n'est pas l'âge d'or non plus.
Voilà, non. Et un Virgile contemporain, peut-être aujourd'hui, insisterait davantage sur un certain respect. Mais donc, il y a cette distinction où l'humanité est convoquée à exploiter, à domestiquer, tout ce qui est naturel quand même, hein, c'est... mais là où effectivement c'est un tout petit peu plus ambigu et intéressant, c'est qu'on sent bien que d'abord qu'il y a une résistance, que la nature résiste, que rien n'est jamais acquis, comme dit l'autre, et il insiste assez lourdement là-dessus, hein, puisque je répète, hein, il y a toute une littérature de la catastrophe, hein, dans ce texte aussi. Hein, il y a les guerres civiles, mais au moins 3-4 fois dans le livre, il décrit des tempêtes, des orages, des pluies qui détruisent tout. Et il met en garde tout le temps son auditeur sur le fait que ce que l'homme entreprend dans la nature est voué de toute façon, comme il le dit de façon très noire, hein, tout corrompt et tout se détruit, se corrompt et meurt. Hein, c'est quand même là-dessus qu'il insiste beaucoup. Donc, il distingue l'homme et la nature, mais on sent effectivement que le destin de l'humanité ne peut pas se faire sans cette nature. Et là, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que de toute façon, l'humanité est liée à cette nature, est liée à ce sol, à ce que on appelle aujourd'hui un territoire de subsistance, et que si ce territoire de subsistance vient à manquer, l'humanité n'aura plus grand-chose à faire.
Merci, Frédéric Boyer.
Merci.
Le Souci de la Terre, votre nouvelle traduction des Géorgiques, est publiée aux éditions Gallimard. Par les temps qui courent, lundi vous retrouverez Marie Richeux à 21h. Ce soir au son c'était Guillaume Ledu, Lise-Marie Barré à la réalisation. Merci à Lou Kevauvillier, Jeanne Aléos, Marianne Chassor et Valentin Rémy qui pensent et préparent cette émission avec moi. Pour réécouter Par les temps qui courent, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast.